Radio Prague, les informations.
Bonjour, le gouvernement d'Andrej Babiš sollicite ce mercredi la confiance des députés. D'ores et déjà, le président de la République, Miloš Zeman, a fait savoir qu'il laissera à Andrej Babiš le temps nécessaire pour former un nouveau gouvernement en cas d'échec. Et puis, économie, la République tchèque se porte très bien et les chiffres de la croissance du PIB pour 2017 le confirment. Le gouvernement minoritaire formé par Andrej Babiš, leader du mouvement ANO, vainqueur des élections législatives en octobre dernier, sollicite la confiance des députés ce mercredi. Composé de 14 ministres, dont quelques-uns sans appartenance à un parti politique, ce cabinet ne recevra toutefois le soutien d'aucun des 8 autres partis représentés à la chambre basse du Parlement. Présent à cette chambre des députés pour soutenir le gouvernement d'Andrej Babiš avant le vote de confiance, le président de la République, Miloš Zeman, a confirmé qu'il donnera une deuxième chance au leader du mouvement ANO et lui confiera de nouveau la mission de former un gouvernement si, comme cela est fort probable, les autres partis ne soutiennent pas son cabinet ce mercredi. Toutefois, le chef de l'État a appelé Andrej Babiš à négocier avec les autres partis et ce, de façon à avoir la garantie que son deuxième gouvernement obtienne la confiance de la chambre basse du Parlement, à savoir donc le soutien d'au moins 101 des 200 députés. Plus de détails sur le sujet dans quelques instants dans les faits événements. La croissance du produit intérieur brut tchèque s'est bien établie à 5% sur un an au troisième trimestre 2017 et ce conformément à ce qu'avait déjà indiqué l'Office tchèque des statistiques en décembre dernier. C'est le meilleur chiffre enregistré depuis 2 ans et cette croissance a profité à tous les secteurs de l'économie. Au second trimestre, le PIB avait enregistré une croissance interannuelle de 4,7%. La croissance intertrimestrielle, elle, a cependant ralenti, passant de 2,5% à 0,5%. C'est d'abord la demande intérieure qui explique cette tendance à la hausse et notamment à la consommation des ménages et la hausse des dépenses d'investissement. La première des grandes expositions qui se tiendront tout au long de cette année au château de Prague dans le cadre des célébrations du centenaire de la fondation de l'État tchécoslovaque a été ouverte au public ce mercredi. Intitulée « Les fondements de l'État », cette exposition présente notamment différents manuscrits et documents médiévaux rares. L'exposition qui se tient dans la salle des écuries impériales ne restera ouverte que 6 jours jusqu'au 15 janvier. Le nombre de visiteurs est également limité et ce afin de pouvoir maintenir des conditions propice à l'intérieur de la salle à la protection des documents exposés. On termine avec un mot de météo. C'est un temps gris avec quelques précipitations ici et là qui règnent sur la majeure partie du territoire. Ce jeudi, jour de la fête des Bordana, les températures varient entre 4 et 6 degrés. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre attention et de rester en notre compagnie pour la suite de ce programme. Très bonne écoute.
Radio Prague, les informations.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Prague et merci à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. Ce mercredi, la Chambre des députés est réunie et doit voter la confiance ou non du cabinet d'Andrej Babiš. Avant cela, le président Miloš Zeman s'est exprimé devant les députés. Les détails dans quelques instants. Le photographe franco-tchèque Josef Koudelka fête ses 80 ans. Ses photographies de l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie en 1968 ont fait le tour du monde. Aujourd'hui, il sillonne inlassablement la planète avec son appareil photo. Une plage d'histoire en deuxième partie d'émission avant de passer à notre concours, la chanson du siècle. Bonne écoute de ce programme. Ce mercredi, le président de la République, Miloš Zeman, a tenu un discours devant la Chambre des députés issue des élections législatives d'octobre dernier. Une allocution dont on savait à l'avance qu'elle allait confirmer l'appui du chef de l'État au gouvernement minoritaire formé par Andrej Babiš. Magdalena Hrozinková.
Fort de la victoire électorale de son mouvement ANO et nommé Premier ministre par le président Zeman en décembre dernier, le milliardaire Andrei Babiš a rapidement constitué un gouvernement minoritaire composé de ministres ANO et de quelques experts sans appartenance politique. Empêtré dans une affaire de fraude aux subventions européennes, dite l'affaire du nid de cigogne, Andrei Babiš a essayé en vain de trouver un soutien politique à son cabinet en vue du vote de confiance à la Chambre des députés. Politologue à l'université Charles de Prague, Milan Znoj s'explique sur les raisons de cet échec.
Cette phase d'instabilité politique a commencé à la fin du mandat du précédent gouvernement. Elle est due au fait qu'Andrei Babiš est soupçonné de fraude et poursuivi par la justice. Ce soupçon a déstabilisé l'ancienne coalition gouvernementale. Après les élections, de nombreux partis étaient favorables à la création d'un gouvernement majoritaire, mais sans la présence d'Andrei Babiš, ce qui était inacceptable pour le mouvement ANO. Jusqu'à présent, le Premier ministre a été incapable d'établir un réseau de contacts sur la scène politique, de trouver des partenaires et de nouer des liens positifs. Ce qui dérange, c'est son inculpation ainsi que certains éléments du programme de son gouvernement.
Pour le président Miloš Zeman, tout comme pour le mouvement ANO, il n'est pas question d'envisager un gouvernement sans Andrej Babiš. En évoquant ce mercredi devant les députés l'enquête de la police tchèque et des autorités européennes au sujet de l'affaire du nid de cigogne, le président Zeman a réitéré qu'il respectait le principe de présomption d'innocence à l'égard du Premier ministre.
V některých případech jsou tam témata, na kterých se může sjednotit velká část naší politické scény.
À la chambre basse du Parlement, le chef de l'État a également soutenu le programme du gouvernement Babiš. Le document met un accent particulier sur le renforcement de la position de la République tchèque au sein de l'Union européenne, qui se traduit d'ailleurs par le refus persistant du système de quotas de relocalisation des réfugiés, ainsi que sur la réforme du système des retraites et la numérisation de l'administration publique. Un document qui prévoit enfin l'introduction d'une loi sur le référendum souhaitée par le parti SPD. Reste à savoir si Andrei Babiš aura l'occasion de mettre en œuvre ses priorités. Il dispose pour cela du soutien sûr et certain du président Zeman. Celui-ci a déjà fait savoir qu'il confierait de nouveau à Andrei Babiš la mission de former un nouveau gouvernement. On écoute Miloš Zeman.
S'il y a une seconde tentative de formation d'un nouveau gouvernement, je laisserai suffisamment de temps aux négociateurs pour qu'ils puissent trouver un accord sur la création soit d'un gouvernement de coalition, soit d'un gouvernement minoritaire soutenu ou toléré par certains partis représentés au Parlement.
En quittant la Chambre des députés, Miloš Zeman a toutefois précisé aux journalistes qu'avant de charger à nouveau Andrei Babiš de la formation d'un cabinet, il lui demanderait de trouver au préalable un soutien de 101 députés.
Le photographe franco-tchèque Josef Koudelka fête ses 80 ans ce mercredi. En cette année en 8, où l'on commémore les 50 ans de l'écrasement du printemps de Prague, impossible de ne pas penser aux photographies qui ont rendu célèbre Koudelka à travers le monde. Celle de l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie en août 68, à jamais associée au plus grand des photographes tchèques. Josef Koudelka a la réputation d'être un artiste discret, solitaire, qui ne goûte guère mondanité et interview, préférant laisser parler ses photographies qui, il est vrai, se suffisent à elles-mêmes. Dans les rares documentaires qui lui sont consacrés, l'artiste donne pourtant une impression tout autre, celle d'un homme prêt à s'ouvrir et à évoquer les diverses étapes d'une vie jalonnée par ses cycles photographiques, tous exceptionnels. Un partage concédé de sa part, résultat d'une sorte de contrat de confiance avec son interlocuteur, comme l'expliquait il y a 2 ans de cela, le jeune photographe israélien Gilad Baram, auteur du film Koudelka photographiant la Terre Sainte.
Je ne pense pas que cela aurait pu se faire si cela avait été un réalisateur lambda voulant faire un film sur Josef Koudelka. Koudelka est un homme merveilleux, mais un homme dur. Je pense que quelque chose de son expérience sous le joug soviétique est resté en lui, une sorte de suspicion de base vis-à-vis des gens et de leurs intentions. Dans ce cas précis, nous avons créé une relation de confiance avec le temps. Il avait besoin de moi pour circuler, pour traduire, il a dû se dire « je vais laisser ce gamin jouer ». J'étais au bon endroit au bon moment.
And I think I was there in the right place in the right time.
En 2008, à l'occasion des 40 ans de l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie, Josef Koudelka avait publié une monographie intitulée « Invasion », accompagnant une exposition du même nom. À l'époque, il avait d'ailleurs accepté de se souvenir pour Radio Prague de ces journées intenses et dramatiques qui avaient suivi l'entrée des troupes du pacte de Varsovie dans le pays.
Je revenais juste d'un voyage en Roumanie où je photographiais les Roms. Je suis allé dormir et au beau milieu de la nuit, vers 3 heures, le téléphone a sonné. C'était une de mes amies qui m'a dit « Les Russes sont ici ». J'ai raccroché en pensant à une blague, mais elle a rappelé 3 fois, elle m'a dit d'ouvrir les fenêtres et d'écouter. Et là, j'ai entendu le bruit régulier des avions. J'ai compris qu'il se passait quelque chose. J'ai pris mes appareils photo et je suis sorti.
De son errance dans les rues de Prague occupées, Josef Koudelka tirera les photographies d'août 68, les plus belles, par leur tragique et leur sobriété. Hommes et femmes sont au cœur de ces clichés, par leurs regards, leurs gestes, leurs attitudes. Devenu photographe de la prestigieuse agence Magnum, Josef Koudelka finit par émigrer en France, mais sans jamais avoir eu de réel port d'attache. Sa maison, c'est la route, un nomadisme voulu qui résulte de son exil et d'une farouche volonté d'indépendance. On écoute encore Josef Koudelka.
Si vous décidez de partir, si vous êtes obligé de partir, comme moi j'ai dû partir de Tchécoslovaquie, parce que si j'étais resté, je serais allé en prison, très certainement, mais si vous prenez la décision, il faut absolument se dire, je ne reviendrai plus. Il faut l'accepter comme un fait, que la maison brûle, que je dois recommencer à zéro, reconstruire la maison. Il faut aussi profiter de la possibilité que vous offre l'exil, que vous vous retrouvez dans un autre environnement, avec d'autres personnes qui ne savent pas grand-chose de vous. Vous pouvez commencer quelque chose de nouveau. J'ai fait un livre qui s'appelle « Exil » et l'écrivain polonais, Czesław Miłosz, il dit « L'exil détruit, mais s'il ne vous détruit pas, il vous rend plus fort ».
A ten končí tím, že říká « Exil ničí, ale když vás neničí, tak vás udělá silnější ».
À désormais 80 ans, Josef Koudelka continue d'être un éternel marcheur et observateur du monde qui l'entoure. De ses voyages, il tire désormais des paysages en grand format. Et si l'humain a physiquement disparu de ses photographies, les traces qu'il laisse sur son environnement, elles, restent. En cherchant à comprendre pourquoi chaque cliché ou presque de Koudelka prend une dimension quasi mythique, on repense aux paroles de la critique d'art Anna Farova à son propos.
Comme il y a des personnes qui ont la l'ouïe absolue, alors lui, il est un visionnaire absolu, ou la vision, l'œil absolu.
Plusieurs expositions consacrées à Josef Koudelka, notamment au Musée national et au Musée des arts appliqués, sont prévues à Prague cette année. On passe tout de suite à la deuxième partie de notre émission. L'historien Antoine Marès signe en collaboration avec son collègue Alain Soubigou un ouvrage intitulé « L'Europe centrale dans l'Europe du XXe siècle » paru en décembre dernier aux éditions Ellipse. Pour présenter ce riche et dense manuel, le chercheur est passé dans les studios de Radio Prague, évoquant au micro de Pierre Maignan les tensions particulières qui traversent cet espace souvent méconnu en France.
Chapitre de l'histoire.
C'est un manuel qui est destiné avant tout aux étudiants de premier cycle, mais je dirais à tout lecteur cultivé et curieux, puisque cette année et l'an prochain, nous allons avoir 900 étudiants qui viendront écouter ce cours sur l'Europe centrale, sur l'Europe médiane dans l'Europe du XXe siècle, et qui auront ainsi un manuel. Nous l'avons fait parce qu'il n'y avait pas de manuel transversal chronologiquement sur cette période, donc il nous a semblé indispensable de doter les étudiants d'un manuel qui leur permettrait d'approfondir un petit peu ce qui leur sera dit en cours.
Alors, dans le titre, on parle d'Europe centrale, mais dès l'introduction, vous nous dites que vous allez privilégier le terme d'Europe médiane. Pourquoi choisir ce terme plutôt que d'autres, comme Europe centrale, Europe orientale, etc.
Alors, l'Europe médiane, c'est un concept beaucoup plus large que celui d'Europe centrale, et qui est né de la difficulté qu'il y avait de cerner géographiquement les termes qui existaient, l'Europe du centre-est, l'Europe balkanique, l'Europe centrale, l'Europe danubienne, etc. Donc l'Europe médiane, c'est un concept très vaste qui nous fait partir de la Baltique au nord à la mer Noire et à l'Adriatique au sud, et de l'Allemagne à la Russie. C'est cette zone qui se trouve entre l'Allemagne et la Russie qu'il s'agissait de couvrir, et qui est une sorte d'angle mort de la vision française. Donc l'intérêt, c'était de s'attacher à une zone qui est très peu connue et qui est pourtant essentielle dans l'histoire de l'Europe.
Et pourquoi, selon vous, elle est si peu connue en France? Vous parlez effectivement d'angle mort. Est-ce que cette vision, elle a tendance à évoluer aujourd'hui?
Alors, je dirais qu'elle a tendance à évoluer du fait de l'Union européenne et de l'adhésion de ces pays dans l'Union européenne. Mais il reste encore très largement des ignorances, notamment sur le passé de ces pays qu'on a tendance à sous-estimer systématiquement, à cantonner cette zone dans une sorte de périphérie, alors qu'elle est beaucoup plus centrale qu'on imagine pour l'histoire de l'Europe.
J'en reste au titre, vous auriez pu titrer l'Europe centrale au XXe siècle, et vous titrez l'Europe centrale dans l'Europe du XXe siècle. Pour appréhender cette histoire de l'Europe médiane, il faut comme ça élargir la focale.
Oui, absolument, puisque c'est une Europe qui a été une Europe objet, qui a été entourée par des voisins puissants, que ce soit la puissance germanique à l'ouest ou la puissance russe à l'est. Et si on monte un petit peu dans le temps, bien sûr l'Empire ottoman au sud, et même si on remonte également dans le temps, il ne faut pas oublier que la Suède a joué un rôle impérial important au nord de l'Europe. Donc pour appréhender cette Europe médiane, il faut la remettre dans son contexte européen global.
Parce qu'à ce propos, vous dites que ces peuples qui se trouvent en Europe médiane ont plus souvent été des objets de l'histoire que des sujets. Vous dites que c'est particulièrement manifeste, notamment en 1944-1945, quand les grandes puissances imaginent ce que sera l'Europe après-guerre. Vous pouvez un petit peu nous développer ce concept d'objet-sujet.
Oui, c'est un concept qui est lié en fait à la fragilité des États de la région. Ce sont des États qui sont nés pour la plupart très tôt, au Moyen-Âge, autour du Xe siècle, et qui ont disparu, qui ont été phagocytés par les empires au cours du temps. Et ce qui se passe en 1944-1945, c'est l'absorption, la presque totalité de la zone à l'exception de la Yougoslavie et l'Albanie dans l'Union soviétique. Et on peut parler à ce propos d'un empire soviétique qui s'est constitué à ce moment-là. Donc cette fragilité, cette discontinuité étatique est quelque chose de très très marquant pour la région.
L'autre idée qui revient à plusieurs reprises dans ce manuel, c'est l'idée que l'Europe médiane serait le sismographe de l'histoire européenne. Là aussi, vous pouvez développer un petit peu cette idée de sismographe.
Oui, alors si l'on regarde les grands événements européens, à commencer par la première guerre européenne, qui est la guerre de 30 ans, elle se déclenche en 1618 à Prague. Si l'on continue un peu plus loin, quand commence véritablement la construction d'une Allemagne impériale? C'est en 1866 à Sadova, donc pas très loin non plus de Prague et de Hradec Králové. Et quand on avance dans le temps, on se rend compte à quel point cette zone est présente. 1914, c'est quand même Sarajevo, donc on est dans la partie sud de l'Europe médiane. 1939, c'est bien sûr le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale par l'agression allemande contre la Pologne. 1948, c'est la scission définitive de l'Europe et l'entrée en guerre froide avec le coup de Prague en février. Si l'on se rapproche de la période la plus contemporaine, les dernières guerres européennes se situent aussi dans cette région, avec les guerres yougoslaves à partir de 1991, la décennie des années 90, et sans parler plus récemment encore des déchirements qui divisent l'Ukraine.
Cette année 2018, elle est marquée pour les Tchèques par de nombreux anniversaires qui terminent en 8, il y a 1918, l'indépendance, la création de l'État tchécoslovaque sur les ruines de l'Empire austro-hongrois, 1938, les accords de Munich et en quelque sorte le début de la Seconde Guerre mondiale en Europe, 1948, le coup de Prague, 1968, le printemps de Prague. Est-ce que la Tchécoslovaquie, les pays tchèques sont aussi un mini sismographe comme ça de l'histoire européenne ?
Je rappelais tout à l'heure 1618, mais on pourrait parler également de 1848, la révolution qui s'est développée à Prague aussi au printemps. Ça frappe beaucoup les observateurs de voir que ces années en 8 sont récurrentes tout au long du XXe siècle. Effectivement, 1918, c'est la naissance de la Tchécoslovaquie, mais c'est aussi la disparition de l'Empire austro-hongrois qui a vécu sous sa forme multinationale pendant près de 4 siècles. C'était pas un État artificiel, contrairement à ce qu'on a parfois tendance à dire. C'est un État qui a occupé sa place, en Europe. 1938, évidemment, Munich. Tristement célèbre. 1948, la prise de pouvoir par les communistes. 1968, peut-être le dernier espoir d'une réforme du système communiste. Et après, on entre dans une période de gestion où la foi communiste a complètement disparu, y compris dans ce pays. Et du coup, on attendait 1988. Et 1988, il s'est pas passé grand-chose, à dire vrai. Il a fallu attendre, il y a un 88 à retardement, avec la révolution de velours de novembre 1989.
On verra ce que nous réserve 2018 en pays tchèque, peut-être des surprises. En tout cas, évidemment, ici à Prague, c'est l'histoire tchèque qui nous intéresse plus particulièrement. Est-ce que vous voyez des traits peut-être originaux à l'histoire tchèque du XXe siècle? C'est notamment la seule démocratie dans l'entre-deux-guerres, la Tchécoslovaquie, au milieu de pays autoritaires.
Oui, alors ça, c'est une expérience qui, à mon avis, a deux sources principales. D'une part, le développement socio-économique de cette région. Les pays tchèques, c'était le poumon industriel de la monarchie austro-hongroise. C'est une population mature sur le plan politique. Et puis d'autre part, le rôle qu'a joué Masaryk, indiscutablement, comme créateur de la République tchécoslovaque et comme esprit dominant de cette première République tchécoslovaque. Et en même temps, les élites de ce pays, depuis le XIXe siècle, ont été toujours partagées en deux parties. Une partie ouverte sur le monde européenne et une partie beaucoup plus provinciale, beaucoup plus repliée sur elle-même. Et l'histoire des idées, l'histoire politique de l'espace tchèque peut certainement être analysée à travers cette opposition, cette rivalité entre ces deux pôles. Et le sentiment qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que c'est plutôt le pôle provincialiste et de repli qui l'emporte sur celui de l'ouverture, du moins au niveau de l'opinion publique.
Comment cette tension entre ces deux pôles s'est manifestée pendant la période communiste ?
Alors, c'est une bonne question parce que aujourd'hui, on pensait que la période communiste, une fois terminée, ne laisserait pas de traces. Je pense qu'elle a laissé des traces profondes, du fait en particulier du repli pendant ces 40 ans, avec quelques période un peu exceptionnelle comme le milieu des années 60, la deuxième partie des années 1960, et un enfermement en fait de la population. Alors ça, c'est quelque chose qui me paraît important, dont les traces sont encore visibles. Et l'autre dimension, qui n'est peut-être pas assez bien analysée, c'est l'auto-légitimation du Parti communiste par le nationalisme. Un nationalisme qui était lié d'ailleurs à ce repli, qui est resté quelque chose de fort et qui me paraît toujours très présent dans cette société.
C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tous ces sujets sur notre site internet, le www.radio.cz/fr. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Merci de votre fidélité. Tout de suite, notre concours, la chanson du siècle. Bon vent, ahoy. Les 100 chansons du siècle, le grand concours destiné aux auditeurs de Radio Prague pour élire la chanson tchèque du siècle depuis 1918, se poursuit avec pour cette fois une plongée dans l'année 1920. Je vous rappelle que le règlement est à consulter sur notre site internet le www.radio.cz/fr. La guerre finie, la vie revient à la normale en Tchécoslovaquie, elle s'anime tout particulièrement dans les cercles culturels pragois. De nombreux théâtres et cabarets voient le jour, les gens veulent profiter du retour des beaux jours et s'amuser. La chanson du siècle. Le groupe de cabaret pragois Červená Sedma, le 7 rouge, est alors en plein essor. L'ensemble crée même une filiale à Brno et organise des tournées en province pour aller à la rencontre du public qui ne peut se déplacer dans les grandes villes du pays. Une de ses chansons les plus connues que l'on pourrait qualifier de classique était Písnička z mládí, chanson de jeunesse, inspirée d'une balade faite un beau soir d'été par le parolier Edward Bass et le compositeur Jiří Červený suite à un spectacle donné par Sedma à Kolíně. Comme le musicologue Josef Kotek l'a découvert plus tard, les deux auteurs ont trouvé leur inspiration plus précisément en observant les gens danser dans un restaurant de la ville appelé Nazar Metzke et en écoutant le refrain de l'une des chansons jouées ce soir-là. Ils ont alors pris conscience que la soirée n'était plus destinée aux gens de leur âge, mais à la génération plus jeune. Une autre curiosité est liée à cette anecdote. Dans la version imprimée de la chanson figure la remarque écrite plus tard à la main et presque autocritique de Jiří Červený. Ce n'est pas une chanson sentimentale, car c'est davantage une résignation réaliste qui en ressort. Pourtant, Bass n'avait que 32 ans quand il a écrit ses vers, et Červený n'était que d'un an plus âgé que lui. Ainsi donc, était-il de jeunes vieux? Leur Písnička z mládí, chanson de jeunesse, semble bon la nostalgie de l'époque et reste aujourd'hui encore un document générationnel riche en enseignements pour nous aussi. Elle l'est d'autant plus dans la version dans laquelle l'auteur en personne est au piano et dans laquelle la fille de Jiří Červený, la chanteuse d'opéra mondialement connue Sonia Červená, déclame.
Letní noc se rozklenula nade mnou, zlato hvězd se tiše třpití v tmách, za městečkem voní, vůní tajemnou. Pokosený jetel na lukách, z řady oken zář se line v temnotu, jimi vidíš němých stínů chvat. Mládenci a dívky přišli v sobotu, na zámecko večer tancovat. Písničko již jsem měl rád, kde jsou ty chvíle, kde je ten čas, kdy já jsem býval mlad. Kdy já jsem býval oblaka pod zlatými hvězdami, životy, jež unášíte v dál. Opuštěn tu stojím, poutník neznámý, rád bych se vám dneska zpovídal, že jsem z díky bral, co život nabízel. A že nelkám proto, co zas vzal, že jen teskný nápěv, jenž mým mládím zněl, vzpomínky mi v duchy rozehrál. Písničko již jsem měl rád, vždyť jo to cítím, vždyť jo to
neisem ušman. Že neisem